Bonjour, bienvenue dans ce groupe de partage du samedi 1er décembre 2012, un samedi qui a environ 3 semaines de cette date qui fait tant parler d'elle, du 21 décembre 2012, de l'équinoxe, pardon, du solstice d'hiver. Voilà, peut-être aura-t-on l'occasion de soulever, mais en tout cas une date qui soit rassemble beaucoup de peur ou rassemble beaucoup d'énergie, beaucoup de promesses ou beaucoup d'espoir chez certains. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les frères et sœurs qui en ce moment même sont avec nous et qui écoutent ce groupe à distance, et qui font que ce groupe est bien plus grand qu'il n'y paraît. Voilà, j'ai été guidé à placer ce groupe sous le signe de la paix, avec un mantra qui dit juste « Shalom », paix, en permanence, en toile de fond à nos partages. Que la paix soit avec nous, aujourd'hui et à jamais. Voilà, nous allons partager à propos de non-dualité, à propos des enseignements d'un cours en miracles, de Jésus Yeshua et bien d'autres. Tout ce qui d'une manière ou d'une autre nous rappelle l'unité, nous rappelle que nous sommes tous un, malgré les apparences, que nous sommes des fragments de la source divine qui porte chacun une étincelle divine et qui joue à se croire séparés. Comme si la source, tout en restant une, s'était apparemment fragmentée en de multiples parties. Et puis aujourd'hui, j'ai tiré la leçon dans le panier 248. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Voilà, quand je me sens dans un état un peu particulier aujourd'hui, un peu nébuleux, je peux m'appuyer sur cette phrase pour me rappeler que tout va très bien, malgré les apparences. Voilà, et puis nous pourrons nous appuyer sur ces deux mots puissants qui disent « Dieu est » pour interpréter quoi que ce soit dans nos vies quotidiennes qui posent apparemment difficulté, ou pour éclairer des situations qui méritent de l'être à la lumière de la non-dualité. Dieu est, c'est la paix éternelle. Une présence immuable, inchangeable, omnipotente, omnisciente, qui s'étend en permanence, à travers l'amour qui est partagé. Et nous sommes sur terre pour faire de même. Choisir l'amour au lieu de la peur pour étendre le champ d'action de l'amour, le domaine de l'amour, et pour créer toujours davantage, puisque nous sommes nous-mêmes la création d'amour de Dieu, et que nous avons à notre tour ce pouvoir d'étendre l'amour. Et comme nous avons le libre arbitre, eh bien, nous avons pu choisir apparemment de nous égarer dans la peur et faire des expériences qui pourraient être considérées comme sombres. Mais ces expériences sont de nature à développer l'amour également en multipliant les choix. Je choisis ça, je peux choisir à présent autre chose. Voilà, et puis comme Dieu est, Dieu ne s'oppose à rien, accueille tout sans jugement. Dieu ne se peut pas s'opposer à quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et donc Dieu est 100% d'accord avec tout ce que je décide, me laisse faire mes expériences et ne me juge pas. Alors pour certains, ça peut aider à se défaire de la culpabilité qui est inhérente parfois à « j'ai mal fait et je vais être puni par Dieu » ou « j'ai fait une mauvaise action et je vais le payer ». Voilà. Dieu accueille chacun de ses fils comme un seul fils, les bras ouverts, quoi que ce soit. Que ce fils ait eu l'idée d'expérimenter. Et il y a une bonne raison pour cela, c'est que ce monde de dualité n'est pas réel. C'est-à-dire que même s'il est perçu, il est imaginé par nous dans le but de représenter un grand champ d'expérience. Et s'il n'est pas réel, pourquoi Dieu s'opposerait à quoi que ce soit, et en particulier à quelque chose qui n'est pas réel? Donc Dieu dit oui à la dualité, à notre désir d'expérimenter ça, et à travers ça, d'expérimenter davantage d'amour. Peut-être le sentons-nous, peut-être le sens-tu, toi qui écoutes cet enregistrement, qu'à travers l'accélération ambiante du temps, des événements, la densité aussi des choses et des événements qui se produisent. Peut-être sens-tu à travers cela que dans l'humanité, il y a une phase d'élévation de conscience avec beaucoup d'énergie qui est donnée en ce moment, qui est reçue en ce moment. Voilà, ou peut-être pas, hein, ou peut-être sens-tu qu'il y a une période qui invite au nettoyage des peurs, au nettoyage des obstacles à l'amour, et qui favorise que la terre brille de sa lumière comme jamais elle n'a pu le faire, et que cette période est favorable à notre réveil collectif. Puisque nous laissons passer la lumière de plus en plus à travers nous, à travers nos cœurs. Et que cet éveil, certains l'appellent l'ascension. Mais l'ascension, c'est simplement l'ascension en vibration, l'ascension en niveau énergétique, l'ascension en vibration d'amour. Donc ça peut être complètement intériorisé sans aucune manifestation extérieure, mais un ressenti puissant d'amour qui va prendre possession de moi et me diriger pour me guider dans chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacune de mes actions. Voilà, et puis aimer, c'est très simple, ça ne demande pas d'effort. Par contre, résister à l'amour, ça en demande. Et donc, baisser les barrières qui empêchent de constater la présence de l'amour, c'est éminemment simple, mais ça demande de la confiance. Peut-être le moment est-il venu maintenant pour cela. Baisser ses barrières et envisager un nouveau regard sur l'humanité, sur chacun de nous, peut-être en tant qu'humain, et le rôle que nous pouvons jouer dans cette phase de l'humanité et de la planète Terre. Alors, afin de me laisser diriger, je vais citer 5 phrases d'un cours en miracles qui m'inspirent et qui m'aident à passer au-delà des apparences de vulnérabilité, de faiblesse, d'être égaré, d'être dans le brouillard, hein, ou d'être fatigué, comme je peux le ressentir là maintenant. Sensation un peu étrange. Et en même temps, je sais que tout va bien. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Donc, bienvenue à nos instants de communion. Et on peut écrire communion aussi en deux mots, comme union. Bienvenue à nos instants de partage par des mots ou à nos instants de partage par du silence. Et j'ai ouvert tout à l'heure l'Évangile selon Jésus, un ouvrage qui me touche beaucoup, de Paul Ferrini. Et je suis guidé à lire un passage de Jésus qui parle de 4 étapes pour se libérer de la peur. Et Jésus, à travers Pamela Crib, avait déjà amorcer ce chemin, cet enseignement, en parlant des 4 étapes qui mènent de l'ego vers le cœur. 4 états de conscience qui témoignent d'une avancée sur le chemin de l'amour. Alors, en préambule, il dit: vous croyez que votre ego sait ce qui est bon pour vous et qu'il peut combler vos désirs. Cela n'est pas vrai et ne l'a jamais été. Vous écoutez la voix de l'ego parce que vous êtes apeuré. Si vous ne l'étiez pas, vous écouteriez une voix différente. L'ego semble vous offrir une échappatoire à la peur. Mais comment ce qui est né de la peur pourrait-il vous dégager de la peur? Cela n'est pas possible. Seul ce qui est né d'un lieu exempt de peur peut vous indiquer comment vous extraire de la peur. La clé ultime consiste à reconnaître votre peur. Une fois que vous savez que vous êtes animé par la peur, vous savez que toutes les décisions que vous prenez dans cet état seront contre-productives. Lorsque la peur s'empare de vous, votre seul mode d'action constructif est de reconnaître votre peur, de vous apercevoir que vous êtes incapable de prendre de bonnes décisions et d'entamer un travail pour accepter et traverser votre peur. Voici 4 étapes simples pour vous aider à le faire. Premièrement, reconnaissez votre peur. Remarquez les signes qui indiquent sa présence. Souffle très rapide et court. Cœur qui bat, la chamade. Nervosité, angoisse, colère. Pensée orientée vers l'attaque. Soyez conscient de votre état physique, émotionnel et mental, sans le juger ou sans tenter de le modifier. prenez-en acte auprès de vous-même. Et si quelqu'un d'autre est impliqué dans la situation, faites-lui en part. Deuxièmement, reconnaissez que la solution que vous propose l'ego est motivée par la peur. Comprenez que votre ego aura toujours une solution pour chaque chose qu'il perçoit comme problématique. Mais quand vous écoutez cette solution, vous n'êtes pas plus en paix. Vous êtes même souvent accablé, plus accablé par la colère. Vous avez un plus grand sentiment de victimisation. Vos soupçons croissent. Vous êtes davantage sur la défensive. La solution proposée par l'ego ne peut pas vous apporter la paix. Troisièmement, acceptez votre peur. Prenez-la dans vos bras. Dites-vous, ce n'est pas grave si j'ai peur. Je ne fuis pas ma peur et me mets à son écoute pour savoir pourquoi elle ressurgit en ce moment. N'ayez pas une approche analytique. Ne partez pas dans le mental. Restez dans votre corps émotionnel et écoutez ce qui s'y trouve. Vous saurez que votre écoute aura été suffisante lorsque vous sentirez la paix revenir en vous, même sans avoir de solution à votre dilemme. Quatrièmement, dites-vous, je ne suis pas forcé de décider tout de suite. Je peux attendre que ma peur s'estompe pour y voir plus clair, avant de prendre les décisions qui s'imposent. En suivant ces quatre étapes, vous vous apporterez amour et acceptation. De ce lieu de compassion, une solution exempte de peur pourrait être trouvée à votre dilemme. Mais ne vous mettez pas à la pression. Lorsqu'il y a pression, davantage de peur remonte encore. Continuez à vous aimer et à accepter votre peur. Soyez patient et laissez la réponse venir d'un endroit de votre psyché qui ne connaît pas la peur. Sachez que votre ego n'a de solution à aucun de vos problèmes. Malgré ses promesses perpétuelles, il ne sait pas ce qu'il vous faut. La peur a beau essayer, elle ne peut pas être source d'amour. En fait, plus elle s'acharne, plus elle échoue. Et plus elle échoue, plus elle s'acharne. Il n'y a pas de fin à cette spirale descendante d'efforts, tout aussi laborieux qu'inutile, tant que la peur n'est pas acceptée et qu'on n'attend plus de solution de sa part. Lorsqu'il n'est pas grave d'avoir peur, la peur n'est plus incriminée. Et vous non plus. Voilà, je vais m'arrêter là. Quatre étapes. Premièrement, reconnaissez votre peur. Deuxièmement, reconnaissez que la solution de l'ego est motivée par la peur. Troisièmement, acceptez votre peur. Et quatrièmement, attendez un peu pour décider quoi que ce soit. Voilà, ça me parle énormément du fait d'être témoin de ma peur. Et la partie qui est témoin de ma peur peut aussi embrasser la peur, la prendre dans mes bras. Et si je la prends dans mes bras, je ne suis plus noyé dedans puisque je suis celui qui entoure la peur de ses bras. Je ne suis pas la peur elle-même. Donc il y a déjà cette distance du témoin, cette hauteur, cette élévation par rapport à la peur qui fait que les vibrations de la peur peuvent déjà changer avec cette attitude de témoin. Et dès que je dis stop à l'ego, c'est-à-dire stop à la réactivité, je ne décide pas tout de suite, je m'accorde un délai. Je peux laisser redescendre les vagues de réactivité, calmer, relaisser la paix me diriger dans mes actions, dans mes paroles, dans mes attitudes. Et si je ne lutte plus contre la peur, si je la reconnais et si je l'aime, je n'en fais plus un opposé, un opposant. Je n'en fais plus quelque chose à éliminer. J'en fais une part de moi qui s'est égarée dans le libre arbitre. Et à ce moment-là, je recrée l'unité, hein, puisque ce n'est plus hors de moi, mais en moi. Ça fait partie du jeu. Je peux aimer ce jeu qui inclut la peur. Et de quoi a besoin la peur à part d'amour? De quoi a besoin la peur à part d'amour? La peur est la manifestation d'une absence d'amour. Donc la peur n'a rien besoin d'autre que de l'amour, de notre amour, à l'endroit où nous nous sentons coupés de cet amour. Et c'est seulement à cet endroit que peut naître la peur ou le jugement. Si je me sens parfaitement en paix et aimant, jamais il ne me viendrait à l'idée de juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc ce sont des endroits où le libre arbitre dont je dispose m'a autorisé à m'égarer. Et c'est aussi grâce au libre arbitre que je reviens dans la maison de mon cœur pour reparenter cet enfant perdu qui est terrifié et qui a peur et qui a oublié le chemin du retour à la maison. Voilà, ce sont des images, hein, très, très symboliques. Et nous avons tous un enfant intérieur apeuré qui n'a qu'une envie, se retrouver l'amour qui est à la maison. Mais il s'est égaré. Et nous, en tant que conscience, en tant qu'amour, en tant qu'étincelle divine, nous ramenons cet enfant à la maison. Et nous le rassurons. Et nous lui faisons comprendre également qu'il a rêvé, il a fait un cauchemar, mais en fait, il n'a jamais quitté la maison. Et qu'ensemble nous pouvons rire de cette situation. Voilà, je sens de m'arrêter là. Bienvenue à tout ce qui peut venir. Bienvenue à l'inspiration de parler ou de rester en silence.
On nous parle souvent de courage. Et ce mot courage est rejeté souvent par des fervents de la non-dualité. En disant on n'a pas besoin de courage, parce que le courage, ça semble appeler à faire un effort, à faire quelque chose. Pourtant, on peut voir que beaucoup de guides, beaucoup d'informations canalisées Elle nous parle du courage de certains êtres humains ici sur cette planète, dans ce travail d'éveil, travail gigantesque, très ramifié, très spécifique pour chacun. On peut dire qu'il y a 7 milliards de travaux différents, un pour chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce que c'est que ce courage auquel il est fait allusion? On peut dire que c'est temporaire et que c'est un outil qui est utilisé jusqu'à ce qu'on voit qu'il n'y avait pas de courage. Mais temporairement, c'est utilisé parce que l'illusion est très bien faite. Et l'ego fait tout ce qu'il peut pour se maintenir dans l'illusion. L'ego, c'est pas un personnage. L'ego, c'est une façon de voir, c'est une croyance. C'est une croyance que nous avons choisie. Donc voilà, nous voilà avoir choisi un jeu d'ego, un jeu qui est tellement bien fait que, pour la plupart, nous avons oublié que ce n'était qu'un jeu, donc ça n'avait rien de mal, c'était tout à fait innocent. C'était un désir d'expérience, qui vient naturellement, parce que la pensée est infinie, donc... Toute pensée, tiens, et si on expérimentait cela, c'est immédiatement fait. Parce que la pensée crée l'expérience. Elle l'amène, elle la provoque. Nous vivons nos croyances, nos pensées. On peut dire d'une certaine manière que dans l'infini de l'être, l'ego a sa place. C'est une façon de parler maladroite peut-être. Mais enfin, je l'emploie ici dans ce rêve. Je l'emploie ici en pleine dualité. Et justement, tout ce que nous faisons, toute cette expérience terrestre, elle est duelle. Elle est duelle au départ. Même l'univers, au départ, est duel. Qu'est-ce que c'est que la dualité? C'est le 2, c'est-à-dire 2, 3, 10, et c'est le multiple. 10, 100, 1000, 1 million, 1 milliard, des milliards de milliards. Qui proviennent de quoi? De la source, de la non-dualité, de l'un, de ce qui est. Alors on peut dire que même le terme non-dualité est duel. Oui, oui, effectivement, c'est vrai. Tout terme est duel, puisque tout terme, tout mot, toute qualification, tout concept suppose d'autres concepts, d'autres termes, d'autres qualifications. Donc tout ça, c'est duel. À l'origine, c'est ce qui est. Ce qui est donc est totale acceptation, donc total amour, présence. Et voilà que, de nouveau, on nous parle de courage. Ici, là, dans cette incarnation terrestre. On ne dit pas que les anges ou les archanges sont appelés à être courageux. Ça les fait même rire, mais un rire, pas un rire moqueur. Un rire de joie, comme si nous voyions des petits enfants qui jouent tellement bien dans leur cour de récréation qu'ils se prennent pour les gendarmes et les voleurs, quand ils ont décidé de jouer aux gendarmes ou aux voleurs, par exemple. Alors donc, ça nous fait rire, on dit, mais quel jeu merveilleux, les enfants s'amusent, ils se prennent, on s'en donne un cœur joie, ils disent, je vais te tuer, tu es méchante, etc. Et tout le monde rit. Seulement, la pièce de théâtre est tellement bien faite, tellement géniale, tellement incroyable, faite avec une puissance divine, c'est que les personnages, les acteurs, semblent piégés dans leur jeu. Et c'est là qu'intervient ce courage temporaire, mais qui est utilisé dans le jeu. Courage de quoi? C'est pas un courage de faire. C'est jamais au niveau du faire que ça se place. C'est un courage d'oser voir différemment. C'est un courage d'oser se dire, ça marche pas comme ça, il doit y avoir autre chose, eh bien, je veux le trouver. Alors, on m'a dit que mes maîtres, mes parents, mes enseignants, les références de la société, les grands auteurs, les chefs religieux, les chefs politiques, les dirigeants politiques, etc., les maîtres d'école, tout ça sont des gens qui ont des cartes de visite, qui sont spécialistes, qui sont experts. Très bien. Et on m'apprend à me plier et à prendre toujours la deuxième place ou la dernière place et à me référer à ses maîtres, à ses dirigeants religieux, politiques, sociaux. Et puis, très bien. Et là, c'est là que commence à venir le courage. Parce que je m'aperçois que ça ne marche pas. Et donc, je commence à être appelé à dire, mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe là? Ok, très bien. Très bien. Il y a un jeu qui est joué. Regarde, tu as été enfant. Peut-être tu as des enfants maintenant. Le jeu se perpétue. Il y a des moules. On demande aux enfants de penser comme les parents, à qui on a demandé de penser comme leurs parents, et comme ça à l'infini. Et le courage, c'est de dire stop. Stop. Ça ne marche pas. J'ai en moi une voix qui appelle et qui dit ça ne fonctionne pas comme ça. Mais oui, mais tout le monde pense comme ça. Si on ouvre les journaux, si on regarde la télévision, si on écoute les discussions, on voit que sans cesse se forment des clubs, des catégories d'appartenance, des rassemblements pour essayer de prouver qu'on a raison. On cherche des stratégies pour faire la paix et on est toujours en guerre. À l'échelon individuel, à l'échelon familial, à l'échelon local, régional, national et international. Ça ne marche pas. On apprend aux enfants à se battre, à essayer d'acquérir, de se faire respecter, d'avoir de la notoriété. À quel prix? Au prix d'un écrasement, au prix de prendre, pas au prix de donner, pas au prix de s'ouvrir. Et c'est là que vient le courage. Le courage, c'est dire, moi j'arrête. J'arrête. J'arrête maintenant. Alors je ne sais rien. Je prétends plus savoir. Je prétends pas être thérapeute, expert. Je ne sais rien. D'accord, j'ai peut-être un métier, peut-être que je sais bien réparer les voitures, j'observe peut-être que effectivement les voitures, j'ai un certain sens. Peut-être que aussi je suis artiste, donc je fais de la musique ou de la peinture, ou je danse. Et puis effectivement, on me dit que j'ai des talents. Très bien. Ok. Et puis c'est que d'autres ont d'autres talents. Il y en a même qui peuvent être excellents comptables, ou connaître beaucoup de choses en astronomie ou autre, dans les mathématiques. Et comme ça, dans tous les domaines. Très bien. Je me retrouve face à moi-même. Et la question, c'est est-ce que je suis heureux? Si je réponds oui, mais vraiment oui, c'est ok. Si je suis heureux, je suis heureux. Si je suis en paix, je suis en paix. Et puis voilà que, imaginons que je dis oui, aujourd'hui, maintenant, là, oui, d'accord, je suis heureux, je suis en paix. Et puis j'ai un frère ou une sœur qui vient me voir et qui me dit, je ne suis pas bien, moi. Je ne suis pas bien. Et puis j'avais un enfant, il vient de mourir, il vient de se suicider, par exemple. Qu'est-ce que je fais là? Où est mon bonheur? Où est ma paix? Est-ce que je suis toujours dans le bonheur ou la paix ou pas? Est-ce que justement ce bonheur ou cette paix que je pensais avoir, dans laquelle je pensais être, ou dans lequel je pensais être, est-ce que quelque chose peut me l'enlever? Quelque chose de ce monde? Eh bien, si la réponse est oui, quelque chose peut me l'enlever, eh bien, ce n'est pas la paix de Dieu, ce n'est pas la paix de l'être, ce n'est pas la paix de ce qui est à l'infini, de ce qui est immuable à jamais. Ce n'est pas la lumière, la paix. Et donc le courage, ça consiste à dire, mais je veux moi cette paix. Et je le veux maintenant. Peut-être que je vais rencontrer beaucoup d'opposition, des critiques, des portes qui vont se fermer, des opprobes, etc. C'est là qu'intervient un certain courage. Mais le fait de le regarder vraiment en face, je m'aperçois que c'est très facile. Parce que j'ai pas à en parler. J'ai pas à chercher l'approbation des autres. J'ai à le vivre maintenant dans mon cœur. J'ai à vivre cette bonne volonté de dire oui à la réalité que nous sommes tous. Dire oui à l'amour. Dire oui à qui nous sommes vraiment. Alors on va dire, mais qui nous sommes vraiment, mais qui sommes-nous? Et effectivement, là arrive la question de non-dualité et dualité. C'est-à-dire, est-ce que tout est séparé? Est-ce que chaque individu est victime et doit se battre pour survivre? Est-ce que chaque individu est un corps qui va mourir? Et donc c'est terrifiant, la mort est partout. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Là, chacun va trouver ses réponses, et ses réponses vont être différentes pour chacun selon l'instant, selon le conditionnement de l'individu, entre guillemets. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que l'individu est là, c'est toujours le même individu. Vous qui écoutez ces mots, vous êtes toujours face à vous-même. Et moi qui suis en train de parler, là, je suis toujours face à moi-même, avec un conditionnement individuel très précis, qui n'est pas les autres. Et donc c'est ça mon capital, c'est ça dont j'ai, c'est ça qui est ma réalité apparente. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux décider avec deux compagnons de décision. Et on fait tous cela. On décide toujours avec un certain compagnon de décision. C'est soit l'amour, soit la peur. C'est soit, effectivement, je suis séparé, effectivement, je suis un corps physique, et donc c'est terrifiant. Alors, on m'a appris à faire semblant à ne pas le voir, à fuir, à me précipiter dans des stratégies pour essayer d'acquérir un peu de notoriété, un peu d'argent, un peu de reconnaissance des autres, un peu d'amour, ce qu'on appelle l'amour. On m'apprend à encenser des idoles, et finalement, quand je le fais, je m'aperçois que tôt ou tard, je les hais parce qu'elles m'ont pris qui je suis, je dépends d'elles, parce que je ne suis pas elles, donc si elles disparaissent, je ne suis plus moi-même. Même mes parents, si je les idolâtre au début, et si jamais ils meurent, eh bien, ils ne sont plus là. C'est pour ça qu'on voit même certains d'entre nous qui ont perdu leurs parents très tôt et qui ont eu des colères profondes en disant « Pourquoi es-tu parti? Tu m'as laissé. » Le courage, c'est le courage de regarder honnêtement le fonctionnement, mon fonctionnement et le fonctionnement de mes frères et sœurs. Quand je regarde, j'observe. Et quand j'observe, je ne juge pas. Dès que je juge, j'arrête d'observer. Je ne peux pas observer quand je juge. Il y a dans la science et dans les scientifiques, certains faux scientifiques, ce sont ceux qui jugent, qui viennent avec des certitudes. Et c'est perdu d'avance. Le vrai scientifique, c'est un enfant. Il regarde. Il observe. C'est là qu'intervient le courage. Donc j'ai le courage d'observer, même si ça me fait très peur, même si je constate que je ne sais rien, que tout m'échappe, que je n'ai qu'un contrôle. Je ne voulais pas le voir, que j'avais aucun contrôle, mais je commence à le voir. Je regarde mes peurs. Je vois qu'apparemment, je ne peux pas les contrôler. Après, je vais m'apercevoir, peut-être avec un certain travail sur moi-même, que peu à peu, quand je regarde mes peurs en face, elles disparaissent. Mais au départ, il y a du courage qui est nécessaire. C'est une façon de parler. Parce qu'on peut dire, mais pourquoi est-ce que l'un a plus de courage que l'autre, apparemment? Et là, il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est, ça fait partie du processus. C'est comme la confiance. La confiance, il y a un appel à la conscience permanent, et pourtant, pourquoi l'un a plus confiance que l'autre? Pas de réponse, ça fait partie du processus. Confiance en quoi? Courage pourquoi? Pour regarder en face. Pour faire un arrêt sur image, on peut dire. Pour écouter. Poser les armes. Ouvrir le cœur un peu plus. Là, tout de suite, maintenant. Sans exception. Apparemment, je peux ressentir des exceptions en disant ben, telle personne, je ne peux vraiment pas lui pardonner parce que c'est trop atroce. Ok, je regarde ça. Je regarde cette envie de ne pas pardonner. Ça, c'est le courage. Je regarde mon arrogance. Ça, c'est du courage. Je regarde mes peurs, mes haines, toutes mes noirceurs. Ça, c'est du courage. C'est une façon de parler. Et ce courage-là, il est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, nous baignons tous dedans, en cette fin de 2012, et dans ce passage à 2013, puis 2014, 2015, eh bien, nous sommes vraiment les uns les autres confrontés à un nettoyage profond. On ne peut pas dire un nettoyage final, parce qu'on peut dire que ça ne s'arrêtera jamais. Mais tout de même, on peut aussi parler d'un nettoyage final, où l'ancien, les vieilles manières de fonctionner vont totalement disparaître. Et là, effectivement, il y a cette notion de courage. On regarde en face. Nous-mêmes face à nous-mêmes. Les autres sont des miroirs pour nous. Ils nous enseignent. Mais il n'y a plus aucun jugement. Il y a le courage de regarder la façon dont nous fonctionnons à l'intérieur de nous-mêmes. Le courage, on peut dire, dans ce monde d'adultes, que c'est retourner un regard d'enfant. Vraiment, un regard d'enfant, qui ne juge rien, qui regarde, et qui découvre à chaque instant. Puis peu à peu, il s'aperçoit qu'il se découvre lui-même et qu'il se voit lui-même dans les autres, parce qu'il est dans l'amour. Parce que justement, il a le courage de regarder tout, d'accueillir tout, et l'amour se révèle. Et donc, son expérience, qui était une expérience de peur, de fermeture, devient une expérience d'ouverture en permanence. Et ce terme que j'aime beaucoup, ça devient une expérience amoureuse, à tout instant. Et c'est toujours maintenant. D'après la notion de courage, nous pouvons voir maintenant ensemble la notion d'innocence. C'est assez étonnant de voir comme dans le cours en miracle, par exemple, Jésus insiste sans cesse sur l'innocence. Le cours dit « Tout enseignement vrai repose sur le fait suivant. Le Fils de Dieu est innocent et c'est dans son innocence que repose son salut. » Cette notion d'innocence, c'est un appel qu'on reçoit en permanence. Il y a une telle culpabilité, on a tellement l'impression d'être coupable, que c'est interdit d'être innocent, que c'est prétentieux, que c'est arrogant. Eh bien, c'est exactement le contraire. Le Fils de Dieu est innocent. Et c'est là que, même théoriquement, les concepts non-duels peuvent être une grande aide. Parce que ça parle de quelque chose d'extrêmement simple. Est-ce qu'il y a séparation ou pas? Est-ce que Dieu est Dieu ou pas? Est-ce qu'il y a Dieu et autre chose ou pas? Est-ce que Dieu est tout ce qui est ou non? Alors évidemment, chacun va répondre. Mais tôt ou tard, on est confronté à cette question fondamentale, chacun à sa façon, au-delà des mots, bien sûr. La raison vous dira, en anglais « reason will tell you », la raison vous dira que s'il y avait séparation, nous ne serions pas là. D'où vient le fait que nous soyons ici, qu'il y ait ce monde, y compris avec ses guerres, ses luttes, ses conflits, ses sociétés qui s'effondrent, etc. Toute cette noirceur apparente, tout ça vient. Ça vient de ce qui est éternel. C'est bien de l'esprit, hein, c'est bien de Dieu, ce mystère incroyable, fascinant, extraordinaire de l'être, l'être absolu, l'être esprit. Tout vient de la source. Et donc la culpabilité vient de quoi? Eh bien, elle vient de cette expérience de séparation que nous avons choisie, car pour la jouer, cette expérience, il faut prétendre ne pas être qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est Dieu, c'est la manifestation de Dieu. Donc on prétend ne pas être la manifestation de Dieu, de ce qui est, ne pas être la vie, être mort finalement, parce qu'un corps, ça meurt. Et donc il y a une culpabilité profonde qui vient d'une vision fausse. On a l'impression d'être coupable, comme si on avait fait quelque chose de très mal, on a osé bazarder ce qui était une merveille incroyable, ce qui est toute cette magnificence que nous sommes. On a acheté tout ça pour aller s'amuser à la séparation, essayer de construire des petites tours de Babel, essayer de construire des petites relations de marchandage, essayer d'acquérir un petit peu de notoriété, un peu de biens, d'argent, de bijoux, de pièces d'or, de reconnaissance des autres. Ce qu'on appelle de l'amour. Et donc il y a une culpabilité formidable parce que notre âme profonde sait que c'est faux. Parce que qui nous sommes, c'est éternel. Donc c'est là, en nous. Donc ce jeu de la séparation est tellement bien fait que ça va entraîner une fantastique culpabilité qui est insupportable, donc elle est cachée. Elle est cachée. Mais en même temps, elle est un outil de réveil temporaire. Car même cette culpabilité, c'est comme un phare qui nous rappelle, elle nous titille. On sent bien que ça va pas. Et donc, c'est comme un phare qui nous montre le chemin en disant, regarde bien d'où vient cette culpabilité, regarde, t'es pas bien avec ça. Non, non, mais ça va, je suis pas coupable, moi je vais pardonner, bon ça. Très bien, mais... Et puis tôt ou tard, on revient là-dessus. Pas la peine de fuir, c'est pas la peine de faire semblant, ça marche pas. Et donc cette culpabilité, elle est énorme, elle est gigantesque quelque part chez l'être humain. Donc je la regarde en face, et le fait de la regarder, elle commence à s'estomper. Pourquoi? Parce que qui la regarde? Quand je regarde quelque chose, ce que je regarde, c'est pas moi. Donc peu à peu, en la regardant, en l'accueillant, c'est-à-dire en l'aimant en fait, quand j'accueille, j'aime, eh bien, il y a une alchimie en moi qui peu à peu me fait prendre conscience que c'est pas moi cette culpabilité, c'était quelque chose auquel je croyais. Alors certes, le processus va prendre du temps. Mais le fait de l'accueillir, cette culpabilité, est fondamental. D'arrêter de faire semblant, de me cacher, de prétendre. Donc je l'accueille chez moi, et évidemment chez les autres, chez mes frères et sœurs. Je vois que il y a projection partout et qu'on cherche des boucs émissaires, qu'on va sans cesse chercher des victimes. C'est les autres qui sont bourreaux ou victimes. Parce qu'évidemment, si je dis qu'un frère ou une sœur est victime, eh bien je crée le bourreau, parce que je suis créateur. Et c'est là que la non-dualité, une nouvelle fois, revient en force, et c'est fondamental, car nous sommes créateurs. Si Dieu est Dieu, si Dieu est tout ce qui est, si Dieu est esprit créateur, c'est-à-dire que la pensée, disons que toute pensée est réelle pour le penseur, et après tout, tout ce qu'on peut dire, c'est « je pense ». Donc, « je suis », c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je suis, mais je pense, ou je crois penser. D'ailleurs, Jésus nous dit qu'on ne pense pas, on croit penser. Mais au moins, je m'en occupe de ça, de ces pensées. Quelles sont ces pensées? C'est les pensées de peur. C'est ces pensées-là qui ne sont pas réelles. Ben, je les regarde, ou lui demande « non, non, j'ai peur, là, et puis je me sens coupable. Je ne suis pas bien. » Et là, on retrouve encore le courage de regarder la culpabilité. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'expression, le vivant, ce qui est vivant, tout être, est innocent. Il ne peut pas en être autrement, puisqu'il n'y a que Dieu. Est-ce que Dieu est coupable? Ou est-ce que Dieu aurait fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire? C'est dérisoire, c'est risible, puisqu'il n'y a que Dieu. Et Dieu ne peut pas inventer des lois pour se les interdire à lui-même, c'est une bonne blague. Parce que c'est exactement ça, c'est une bonne blague, c'est un jeu de fou, cette non-dualité, cette séparation imaginée, qui ne peut pas se produire. C'est impossible. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit, l'ego ne cesse de poser des questions du genre, comment l'impossible s'est-il produit? La question est dérisoire, il faut savoir, c'est impossible, donc ça ne se produit pas. Mais l'ego est tout le temps en contradiction, on ne veut pas voir qu'il est en contradiction. C'est pour ça que tout ça se termine dans un grand rire, et que nous allons rire les uns les autres, en voyant à quel point on a pu s'imaginer se perdre dans des chimères. Cette séparation imaginée alors que nous sommes la magnificence de la vie, la magnificence divine, le Fils de Dieu, comme l'appelle Jésus dans un cours en miracle et dans ses enseignements, ce qu'il disait il y a 2000 ans. Qu'a pas été bien compris, une fois de plus, c'est vrai. C'était tellement contraire à cette séparation qui était profondément enracinée dans la société et donc dans chaque individu, à part certains initiés, qu'il a fallu énormément de temps pour peu à peu que cette gangue disparaisse peu à peu, s'effrite, et qu'enfin notre cœur s'ouvre. On a fait tous des expériences multiples de dualité. On s'est joyeusement torturé les uns les autres, on s'est joyeusement fait la guerre, tué, violé, volé, etc. Parce que si je crois au viol, à la guerre, eh bien je crée cela, parce que je suis créateur. Je ne peux pas ne pas être qui je suis. Je suis esprit. Nous sommes esprit. Nous sommes Dieu, c'est une étincelle divine, totalement divine, qui peut penser ce qu'elle veut. Et ce qu'elle pense, c'est son expérience. Ce que je vis, j'ai choisi de le vivre. Que je le veuille ou non, que ça me plaise ou pas, c'est comme ça. Ah, mais je ne veux pas le voir parce que ça me fait trop peur. Ok, d'accord. Eh bien, j'ai le courage de dire que je ne veux pas le voir, au lieu de faire semblant. C'est les autres. Non, non, ce n'est pas les autres, c'est moi. C'est moi qui suis en question. Donc cette culpabilité, je la regarde en face, je me sens coupable. J'ai peur et je me sens coupable. Donc peur et culpabilité. Alors culpabilité, bien sûr, c'est par rapport à un passé imaginé. Et la peur, c'est par rapport à un futur aussi imaginé. Un animal ou un tout petit enfant ne s'occupe pas du futur, il n'imagine pas le futur. Il n'imagine rien du tout, il est dans le présent. Il n'est pas dans le passé non plus. Alors on peut dire qu'un animal a des mémoires passées. Un petit animal, peu à peu, ses parents lui apprennent à se méfier des prédateurs. C'est vrai. Ça fait partie du fonctionnement de la vie, ici, dans cette biosphère. C'est un fonctionnement qui se fait tout seul. Mais l'animal n'a pas la notion du temps. Même s'il a des mémoires de fonctionnement, il n'a pas des mémoires, il n'a pas la réflexion par rapport à lui-même. L'être humain, lui, l'a. Et comment justement en sortir? Parce qu'après tout, l'animal, lui, quand c'est l'heure de lâcher le corps, il le fait, ça lui est complètement égal, il l'a. Et l'être humain? Eh bien justement, il le fait par l'amour, c'est-à-dire par l'accueil, en regardant en face, en accueillant, donc en aimant. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que aimer et accueillir, c'est la même chose. C'est pas du tout ce que pense l'ego. Pour qui l'amour est un marchandage. On fait des concessions. On va se rejoindre à mi-chemin. On a chacun des besoins différents, donc on se rejoint à mi-chemin. On va faire des lois. On va faire des pactes. On va faire des contrats de mariage, etc. C'est fini, ça. On va au-delà. Le cœur n'a pas de contrat. Le cœur ne fait pas des lois, ne fait pas des contrats de mariage. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fonctionner avec des lois, mais qui fonctionne? Je me vois fonctionner dans une société. Et mon cœur, lui, est au-delà de toutes les lois. Il y avait déjà ça dans les tragédies du temps de Racine, Corneille et Corneille. C'est les lois non écrites. Mais ça restait encore beaucoup de théorique. Et ça l'est toujours, d'ailleurs, pour la plupart de nos frères et sœurs. Mais c'est en train de changer rapidement. Justement avec ce basculement de cette fin du XXe siècle et début du XXIe siècle avec ce 2012... cette fin de cycle et ce démarrage d'un nouveau cycle, d'un cycle de cinquième dimension, un cycle d'amour vécu, expérimenté, consciemment. Et c'est cette notion de conscience qui devient fondamentale. Mais pour cela, je regarde la culpabilité, la peur, et je le fais avec courage, c'est-à-dire en étant honnête. Et je m'occupe de moi et pas des autres. Je m'occupe de moi et pas des autres. Les autres, je vais m'en occuper, mais dans l'amour. C'est-à-dire que je vais répondre, je vais les écouter, je vais les prendre dans mon cœur, les embrasser, les accueillir totalement, avec leur peur, justement leur peur, leur culpabilité. Comme moi, je comprends. Je suis venu ici avec une grande compassion. Nous sommes venus les uns les autres avec une grande compassion. Alors la non-dualité, vous comprenez bien que ce n'est pas théorique. C'est on ne peut plus pratique. C'est ce que tout le monde cherche. C'est ce après quoi tout le monde appelle. Culpabilité par rapport au passé, terminé. Je lâche ça. J'ai fait ce que j'ai pu, dans mon conditionnement que j'avais choisi. Tous mes frères et sœurs ont fait ce qu'ils ont pu, dans le conditionnement qu'ils avaient choisi. Et le futur, eh bien, c'est ensemble que nous le créons. Comment? Par l'amour. Donc en nous accueillant les uns les autres, sans plus aucun jugement. Oui, mais alors on va dire, mais les autres ont des jugements. C'est pas le problème. La seule question, le seul problème, il n'y en a pas, mais c'est moi. C'est ce que je décide. Avec quelle vision je vais voir ma vie, avec quelle vision je vais regarder aussi bien mon comportement que celui des autres. Dans le jugement, dans le rejet, dans la dualité, la séparation, ou au contraire dans un accueil, un amour inconditionnel total, une ouverture de cœur sans opposer. Bien sûr, je vais peut-être voir que j'ouvre mon cœur et puis je vais le fermer parce que je vais avoir peur, peut-être. Mais au moins, j'accueille ça, je regarde en face. D'accord, j'ai des fermetures. Donc j'accueille mes fermetures, et ça, c'est l'amour. J'accueille mes haines, mes angoisses, mes envies de... mes colères éventuelles, dans l'instant. Ça, c'est de l'amour, d'accueillir. Toujours accueillir. C'est la clé, quelle que soit la circonstance. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. C'est l'amour qui est la seule énergie qui soit créatrice de bonheur, de joie dans l'univers.
J'ai envie de partager, je me sens extrêmement détendu dans ce groupe, je trouve très paisible, je peux m'y reposer, je peux m'allonger intérieurement, me laisser bercer par ces paroles et aussi ce chant. Et m'y abandonner. Et j'ai reçu récemment un email qui m'a touché et qui parle du Big Bang, mais qui parle du Big Bang d'une manière particulière, qui parle de l'instant qu'on appelle la singularité en physique. La singularité, c'est le moment où tout est réuni en un seul point, sans distance, sans temps, sans rien. Toute l'énergie de l'univers qui est en train d'être créée est réunie en un seul point. Alors celui qui commente ce point-là, c'est Jean Bouchard d'Orval, un physicien et ingénieur nucléaire. Il a écrit un livre qui s'appelle « La plénitude du vide ». Alors, beaucoup d'enseignements nous disent encore que lorsque la science et la spiritualité se rejoindront, l'humanité connaîtra un grand tournant dans son évolution, que la science a besoin de moins de preuves, hein, d'objectivité, et que la spiritualité doit s'inspirer de la science également, que les deux sont appelés à se rencontrer. Peut-être est-ce le cas, parce qu'il raconte ça, hein, ce physicien. Il dit, les physiciens modernes sont complètement désarmés, démunis et étrangement silencieux devant ce qu'ils appellent la singularité. On ne sait rien en dire, car tout ce qui est connu de l'intellect y est fusionné, aggloméré, mélangé, dissous. Matière, lumière, énergie, espace, temps, etc. La manifestation est quelque chose d'interne à la singularité, laquelle demeure toujours fondamentalement libre, non impliquée au-delà de l'espace et du temps. La physique quantique força les physiciens à modifier des notions encore plus fondamentales que celles touchées par la relativité d'Einstein, un concept qui repose encore plus profondément à la base de la physique et de la science en général, la notion d'observateur. Qui est l'observateur de tous les phénomènes? Et il continue ainsi, la singularité avec un S majuscule est la vérité, la source, le début et la fin, l'alpha et l'oméga, l'unique sans second. En elle se confondent le jour et la nuit, l'espace et le temps, l'homme et la femme, le haut et le bas, le bien et le mal, la naissance et la mort. Elle est l'unique sans second. Elle est tout ce qui est. Voilà, si ça, c'est pas de la non-dualité pour un physicien nucléaire, je trouve ça magnifique. Hein. Et de plus en plus de physiciens quantiques et autres, comme ils n'ont pas de réponse à des questions ou à des observations qu'ils font, invoquent quelque chose de plus vaste, un principe d'intelligence universelle, invoquent des choses qui sont plus de la science traditionnelle. Donc ça me touche beaucoup parce que ça commence à manifester le fait que la science commence à s'ouvrir à ce qu'elle ne comprend pas par la non-dualité en partie. La notion d'observateur est extrêmement importante en physique quantique. Et il y a des expériences où il est démontré que si j'observe un phénomène, j'influence ce qui se passe. Et que lorsque je ne suis pas là pour l'observer, est-ce qu'il se passe réellement? Voilà des questions assez particulières hein, sur lesquelles nous pouvons réfléchir. L'observateur, c'est une autre façon de dire la conscience hein, d'être là, la conscience de ce qui se passe. Et puis, les physiciens quantiques ont trouvé des particules toujours plus petites et qui avaient des particularités ou des propriétés qui sortent du commun. Et ils ont nommé ces propriétés avec des noms incroyables. Ils ont nommé ça le charme, l'étrangeté, et le spin, il y a trois caractéristiques des particules subatomiques. Voilà, alors ça c'est très poétique. Et en même temps, ça montre à quel point certains scientifiques peuvent aujourd'hui dire je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses se passent, je ne sais pas comment les choses sont organisées au niveau de la matière, au niveau des particules. Et je peux essayer d'observer et de tirer des conclusions de cette observation. Alors je sais qu'il y a une expérience avec ce qu'on appelle la double fente, hein, et lorsque on envoie des électrons et puis normalement ils sont répartis. Il y a deux fentes très fines, ils sont répartis. Ils doivent passer d'une manière statistiquement égale entre les deux fentes. Et puis, pour savoir si le phénomène, enfin c'est de la lumière je crois, ou quelque chose, des photons peut-être, ouais. Si c'est corpusculaire ou si c'est ondulatoire. Hein. Et il s'avère que si je regarde l'expérience, il n'y a pas le même nombre de photons qui passent que si je la regarde pas. Et ça, c'est communément admis. Hein, on peut trouver ça dans Wikipédia, l'expérience de la double fente. Lorsque je regarde l'expérience, je modifie son résultat. Le simple fait qu'il y ait une caméra modifie la répartition des photons. Et si je regarde le phénomène, il sera par exemple corpusculaire, c'est-à-dire que c'est des photons en tant que particules élémentaires, et si je ne le regarde pas, il sera ondulatoire. Et ils peuvent le voir en fonction de combien de photons sont passés par telle ou telle fente. Donc c'est absolument énorme pour moi. comme le fait que tout est impliqué avec tout. Le simple fait que je pose ma conscience sur une expérience modifie son résultat. Tout est intriqué, tout est imbriqué. Et à propos d'intrication, c'est un autre phénomène que Einstein même a refusé d'admettre toute sa vie, et que les physiciens quantiques ont prouvé, ou ont en tout cas posé comme postulat, je pense, hein, c'est que deux particules, même chacune à l'autre bout de l'univers, si elles étaient à un moment donné unies, lors du Big Bang ou lors d'un temps donné, si elles se sont retrouvées éloignées par la suite, dès qu'il y a un changement dans l'une, le changement est immédiat dans l'autre, quelle que soit la distance, même s'il y a 15 milliards d'années-lumière entre les deux. Et donc cette information passe instantanément, plus vite que la vitesse de la lumière. Donc c'est ce que les physiciens quantiques appellent l'intrication. Ces particules sont liées éternellement, quelle que soit la distance. Donc ça pose des questions, hein, sur l'unité de ces particules. Elles sont une, et l'information est partagée immédiatement entre eux. Donc c'est aussi une manière d'aborder cette réalité physique sous un aspect non duel. Nous pensons que les choses sont séparées, et en vérité les choses sont une, et même les particules nous le disent. Donc voilà encore des éléments qui nous rapprochent de « nous sommes un », avec tous les, même les aspects matériels de ce monde. Voilà, je me réjouis de ces ouvertures, hein, qui sortent des postulats, des dogmes, des croyances, et qui acceptent de dire j'ai encore des choses à apprendre, je ne sais pas tout. Hein, je ne peux pas affirmer qu'une vérité est vraie pour toujours. Newton avait élaboré une certaine physique, puis Einstein est venu, et puis a un peu bouleversé ça. Ce que dit Newton est vrai dans un certain champ d'action. Mais quand on passe à un autre champ, plus vaste, il y a une autre physique qui s'applique. Et la physique quantique est venue ensuite par-dessus dire... Il y a des domaines dans lesquels la relativité d'Einstein ne fonctionne plus. Et Einstein a combattu ses idées, je crois, jusqu'à sa mort, et en disant « Dieu ne joue pas au dé », parce que la physique quantique parlait de probabilité. On ne peut pas dire qu'une particule est à un endroit donné avec précision. On peut dire qu'elle a une probabilité d'être là. Donc c'est comme un nuage. C'est un nuage de probabilité. Elle peut être là et là. Et ce qui va fixer sa position, tenez-vous bien, c'est le fait que je l'observe. Le fait d'observer une particule fixe sa position. Avant de l'observer, elle peut être dans plusieurs endroits à la fois. Elle a tout un nuage de probabilité. Voilà, c'est encore de... Hein, je suis là et je suis là. Hein, il n'y a pas de distance, hein, dans ce phénomène-là. Voilà, c'est des considérations qui sont à la fois scientifiques et à la fois ouvrent sur un champ de conscience bien plus vaste que simplement la matière, hein, et le monde de la matière. Je suis assez admiratif de l'ouverture d'esprit et de l'élévation de conscience qui a permis à cette science d'envisager ces possibilités-là qui semblent complètement farfelues pour les physiciens d'avant. Voilà, j'ose imaginer que la théorie d'unification que tous les physiciens cherchent depuis longtemps, qui viserait à mettre tout l'univers en une seule série d'équations, cette unification passera par l'unité, et passera par Dieu, et inclura tout ce qui est, et ne fera pas de Dieu une entité séparée, qui est dans le domaine des religions, en opposition à une science qui dit il n'y a que ce que j'observe qui est vrai. Et tout ce qui n'est pas observable, n'est pas prouvable, ne peut pas être scientifique, ne peut pas être vrai. Voilà, je sens que l'heure du doute est venue pour tous ces postulats. Et que quelque chose de... Et que la vérité se trouve dans la réunion des deux, dans la réunion de tout ce qui est, en même temps que tout ce que je peux observer. Et ceci n'est possible, à mon sens, que par une élévation de conscience dans l'univers, une élévation de conscience dans l'humanité aussi. Et puis, moi, je voudrais témoigner de quelque chose qui n'est pas tout à fait clair encore pour moi, mais je vais essayer de le dire comme ça vient. Un changement que je vis dans ma vie et qui se manifeste d'une certaine manière en une seule phrase, si je pouvais le résumer, c'est « les choses sont ce qu'elles sont ». Il y a une partie de moi qui commence à devenir observateur non impliqué dans les choses qui se déroulent autour de moi et qui ne va plus facilement dans l'émotionnel, qui devient de plus en plus, je dirais, détaché, témoin, et prend acte, constate que les choses se passent comme elles se passent dans ma vie. Et ça se manifeste en particulier par ce que je peux appeler une absence de désir en particulier. Et en même temps, je fais la différence entre ça et une indifférence. Je ne suis pas indifférent à ce qui se passe, parce que je fais ce que j'ai à faire. Si je paye mon loyer, ben je le paye à l'heure où je dois le payer. Il n'y a plus à manger, je vais acheter à manger. Il y a un groupe demain, ben je l'organise. Je dois envoyer un mail, je l'envoie. Mais les choses sont quand même ce qu'elles sont, malgré tout ça. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont à faire, je ne réfléchis pas si c'est bien ou si c'est mal. Simplement, c'est là, c'est une évidence, j'ai à faire ça, je le fais. Et quoi qu'il se passe dans ma vie maintenant, de plus en plus, disons que ça prend place, c'est pas à 100%, mais ça prend place et je commence à constater aussi que ça prend place. Ce qui se passe, se passe. Et j'essaye, c'est même pas j'essaye, je constate que j'ai plus trop d'interaction avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement avec ce qui se passe. Quelqu'un m'appelle, me pose une question, ben je réponds. Et puis, si personne m'appelle, je me dis pas pourquoi personne ne m'appelle. Non, c'est au moment où ça se passe qu'il y a quelque chose à répondre, à dire, et je le fais. Mais en même temps, je me sens guidé à faire des choses, à prévoir certaines dates, des rassemblements, des groupes. Mais c'est pas ça par rapport à autre chose. C'est ça parce que c'est là. Et ça ne naît pas d'une sensation de manque, que si je ne le faisais pas, ça manquerait. Ça naît d'une inspiration à le faire. Et c'est en paix du début à la fin, disons. Et c'est ça qui peut caractériser la différence avec je désire quelque chose dans le sens où si je ne le désirais pas, alors il y aurait un manque. Voilà, je ne sais pas quoi en dire de plus, mais en même temps, c'est si je fais certaines choses, c'est bien, et puis si je ne fais pas certaines choses, c'est bien aussi, de plus en plus. Et des choses se passent, et des événements se passent, des personnes se rapprochent de moi, c'est bien, des personnes s'éloignent de moi, c'est bien aussi. Et quoi qu'il se passe avec mon observation et avec ma présence à ce qui est. Et il n'y a plus, et cet état-là me laisse dans une paix dans laquelle il n'y a plus ça devrait être ou ça ne devrait pas être. Les choses sont ce qu'elles sont. Alors, je ne sais pas dans quoi ça s'inscrit. En tout cas, je sais que c'est facteur de paix pour moi. Parce que la vie se déroule et je suis avec son déroulement. Je ne suis pas celui qui provoque le déroulement. Les choses se passent et je suis avec ce qui se passe. Et si je suis guidé à dire oui à quelqu'un, je dis oui à quelqu'un. Et si je suis guidé à dire non à quelqu'un, je dis non à quelqu'un. Mais je ne dis pas non en m'opposant à quelqu'un. Je suis simplement... je ne le sens pas. Je ne le sens pas, mais c'est neutre. C'est fondamentalement neutre. Ça ne me paraît pas évident. Et quand je dis oui, c'est que ça me paraît évident. Mais il n'y a pas cette dualité-là qui dit ça surtout pas, ou ça oui absolument. C'est beaucoup moins marqué que ça, disons. Et dans cet état-là, la vie est tout à fait particulière. Parfois, je passe deux jours ici, sans aucun contact avec personne, à part le chat. Et puis, tout va bien. Et puis, parfois, je passe plusieurs jours avec des contacts, avec des groupes, et puis tout va bien aussi. Voilà, je sais pas quoi en dire, je vois que ça se manifeste, que ça prend de l'importance, pas de l'importance en tant que c'est bien, hein. Ça prend, ça élargit un champ peut-être de présence en moi à ce qui est. Et que cette façon d'aborder la vie, je dirais d'une grande tranquillité pour moi. puisque j'ai beaucoup moins d'états émotionnels ou dispersés ou de jugements que ce que je pouvais expérimenter il y a quelques années. Et peut-être, est-ce que c'est une manifestation de l'énergie actuelle sur Terre ? Je ne sais pas. Peut-être est-ce que c'est l'élévation de mes propres vibrations ? Je ne sais pas non plus. Mais j'aurais tendance à dire, j'accueille ce qui est. Et j'accueille, ça veut dire j'aime. J'aime la vie qui se présente comme elle se présente. Et je ne désire pas autre chose. Et quand je dis ça, je me rends compte que c'est une façon de vivre sans s'opposer à quoi que ce soit. Alors ça, c'est pas à 100%, hein, ça s'installe, disons, je commence à voir que ça devient une manière de vivre. Et je ne l'ai pas désiré non plus, c'est ça qui est particulier. Peut-être, je pourrais dire, ça s'est imposé à moi, ça... J'ai arrêté de lutter d'une certaine manière contre ce qui survient. Et il y a beaucoup de paix qui s'associe à ça. Et ce que je fais, je sens que je peux le faire. Tranquillement, sans inquiétude, et puis en ayant une grande confiance que si c'est là, ben c'est que ça a à être fait. Si ça vient dans mon esprit, c'est que c'est la meilleure chose possible maintenant. Et puis je suis guidé à tout accueillir, comme aujourd'hui un peu de sentiment de grande fatigue, comme si j'étais assommé, comme ça, je me suis allongé tout à l'heure. Et puis sentiment de un peu ne pas savoir, être vulnérable, chose un peu comme bouleversée, mais pas négativement bouleversé, plutôt un état de je ne sais pas, je ne sais rien. Et la prochaine seconde ou la prochaine minute ou la prochaine heure m'apportera ce qu'elle doit m'apporter. Mais là, maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas d'avance, disons. Et dans ce je ne sais pas, même la vulnérabilité peut être tranquille. Même la fatigue peut être juste, ou peut être accueillie, disons. Parce que c'est ce qui est là, et je ne désire pas spécialement autre chose. Voilà, j'apprends moi-même au fur et à mesure que j'en parle, hein, parce que c'est pas tout à fait quelque chose que je sais. Hein, c'est une chose plutôt que j'expérimente un peu plus chaque jour, mais qui me semble prendre de l'ampleur hein, dans ma vie.
Merci Avi pour ce que tu viens de partager là avec simplicité, profondeur, calme. Et tu as dit avec tes mots, tu as parlé avec tes mots de cette notion de ne plus donner de valeur positive ou négative aux choses. Yeshua, Jésus nous dit souvent, en particulier dans le livre de Brent Haskell, l'apparition de vos soi-disant problèmes, qui pour vous sont des problèmes, c'est le fait que vous donnez de la valeur aux choses, aux circonstances, aux événements, à vos frères et sœurs, etc. Enfin, vous donnez de la valeur positive ou négative. Parce qu'évidemment, la valeur que nous avons, elle est infinie, c'est la valeur divine. Mais nous parlons d'une valeur positive ou négative, le bien par rapport au mal. Et quand on touche à cela, comme tu viens de le faire, de le partager, souvent, il peut y avoir des réactions aux alentours, ou des auditeurs de ceux qui sont là, qui disent, mais alors, ça va être une grande, une indifférence divine, Dieu est dans l'indifférence, ou alors on n'a plus de passion pour la vie. C'est une question qui vient, en fait, c'est pas ça du tout. Simplement, il n'y a pas de valeur qui est donnée. Et on peut avoir se réjouir d'un bon repas, trouver extraordinaire, d'ailleurs c'est ce qui va se passer, ce qui se passe de plus en plus, où on va dire, c'est curieux, mais cette journée, elle n'a jamais été comme ça. C'était plus beau qu'avant. Ce repas était extraordinaire, c'était différent, c'était encore mieux. Donc on va vers le plus, mais sans donner de la valeur, sans dire, c'est mieux qu'autre chose, c'est comme ça. Et le nouveau monde vers lequel nous allons, et nous sommes dedans, parce que il est là le nouveau monde, veut dire on est infini, alors. Eh bien, c'est cette notion de valeur qui disparaît, et donc il n'y a plus qu'émerveillement, car temporairement il peut y avoir, par moments, cette impression que tout est insipide. Mais en fait, c'est pas ce que tu as partagé. Tu as partagé simplement un passage ou une observation qui est très juste et qui est, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, eh bien, nous connaissons à l'heure actuelle. Ces sensations, les choses sont ce qu'elles sont. C'est OK. Voilà. Il y a un groupe, il n'y a pas de groupe, il y a du monde, il n'y a pas de monde. Il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça va. C'est OK. Donc, merci pour ce partage qui est en fait un partage qui est ce qu'il est, là aussi. Il est comme il est. Mais c'est ça, l'amour. Comme tu as dit, c'est l'accueil. L'amour et l'accueil, c'est la même chose. D'ailleurs, j'ai pas envie de encore paraphraser là-dessus. Et simplement, il y a remerciement. C'est tout. C'est amusant parce que je me sens appelé très fortement à continuer dans cette verve, dans cette veine, on va dire cette veine plutôt, d'accueil et par rapport à d'autres dimensions. Ici, nous sommes confinés, notre petit monde à trois dimensions. On nous dit que nous passons à la cinquième dimension, qu'au-delà il y a d'autres dimensions. Et bien simplement, cette ouverture, cet accueil, c'est comme ça. Voilà, nous sommes dans un processus de passage à autre chose, inconnu, nouveau. Et nos guides nous disent d'ailleurs tout le temps, mais vous n'avez qu'une chose à faire, c'est d'accueillir. C'est pour ça quand vous êtes contre, quand vous voulez refuser de voir simplement notre présence à d'autres niveaux, une présence, mettons, extraterrestre, intraterrestre, une présence multidimensionnelle, enfin ce que vous voulez comme terme. C'est pas important ces termes-là. Bien, on est invité, nous sommes invités, pour notre propre paix, à accueillir, c'est tout, c'est comme ça. Effectivement. Effectivement, nous sommes prêts à nous ouvrir à d'autres choses inconnues. Des choses d'ailleurs qui nous ont été cachées par nos dirigeants. Je parle de contact avec des frères d'autres dimensions, entre autres. Parce que ça peut nous sembler un peu marginal dans notre vie quotidienne, dans notre vie humaine, terrestre, là, dans notre petit confinement, là où nous sommes, dans notre milieu social, professionnel, familial. Mais en fait, cet univers est gigantesque. Et tout est un. Tout à l'heure, la vie parlait de, effectivement, de particules qui communiquent entre elles à des distances considérables, et comme ça, d'un bout à l'autre de l'univers. Eh bien, tout est un ici. Donc, les autres mondes multidimensionnels, eh bien, ils sont ici. Bien sûr, comme nous avons choisi un rêve de séparation, ce rêve, il est comme hermétiquement fermé dans nos croyances, on peut dire. C'est une façon de parler. C'est pour ça que les énergies venant d'ailleurs, de mondes multidimensionnels, ne peuvent pas passer comme ça. Parce que quelque part, ensemble, nous avons décidé d'une pièce de théâtre et nous bloquons ces énergies par nos croyances à la séparation. C'est très bien, ça n'a rien de mal, c'est comme ça. Nous avons choisi ce jeu, il est là, c'est tout. Simplement, peu à peu, nous commençons à comprendre que notre insatisfaction, notre mal-être, nos souffrances, peut-être illusoires, mais enfin qui nous paraissent bien réelles, notre sentiment de culpabilité par rapport au passé, qui est très profond, très fort, mais qui est caché, nos peurs aussi par rapport au futur, tout ça, ça ne nous plaît pas. Et donc on a envie d'autre chose, on a envie de paix, c'est évident. Et donc cette ouverture à la multidimensionnalité, elle devient fondamentale avec ce que nous voulons vraiment. Et qu'est-ce que nous voulons vraiment? Être en paix, c'est tout. Être heureux, il n'y a rien de plus simple. C'est évident. Pas besoin de. C'est absolument évident. Tout le monde veut être heureux. Même l'ego veut être heureux. Simplement, il a une fausse croyance. Il repose sur une erreur. Donc ça ne marche jamais. Les choses, effectivement, n'ont plus de valeur, positive ou négative. Mais elles deviennent merveilleuses, magnifiques. Mais elles sont lâchées. Parce que qu'est-ce que c'est que donner une valeur positive ou négative à quelque chose? C'est dire, c'est positif, par exemple de l'argent. Donc si j'en ai pas, je manque. Donc je souffre, je ne suis pas moi-même. Donc je fais dépendre. Si je suis d'une somme d'argent ou de biens matériels, par exemple, ou de relations. Et puis, le négatif, c'est pareil, c'est la même chose. Positif ou négatif, c'est la même chose. Je donne une valeur positive ou négative. Donc, ce que j'ai semble augmenter qui je suis, c'est-à-dire la renommée, des relations, des biens matériels. Et donc, je fait dépendre mon existence de choses extérieures à moi. C'est condamné à l'avance. Je crée ma séparation moi-même, puisque j'ai fait dépendre qui je suis de choses extérieures qui vont m'échapper tôt ou tard. Parce que tout disparaît ici. L'argent, les relations, la renommée, ça disparaît forcément, y compris le corps physique qui va s'arrêter de fonctionner. Les valeurs positives ou négatives, une valeur négative, c'est une valeur dont je ne veux pas. Je ne veux pas de danger, dont je vais me protéger. Mais je crée le danger, je crée ce contre quoi je me protège. C'est pour ça qu'on nous dit, mais dans les mondes futurs, vous n'aurez plus à protéger les biens matériels, parce que la propriété privée n'a plus de sens. pour nous, elle a un sens parce qu'on semble être quelqu'un, parce qu'on possède quelque chose. On possède soit des corps, c'est-à-dire d'autres, un conjoint, des enfants, des amis, on les possède. Ça n'a pas de sens. Donc, une valeur négative, c'est quelque chose qui me fait peur, donc que je veux écarter, mais je lui donne une réalité. Et donc, je la crée dans mon expérience, je l'amène dans mon expérience, tôt ou tard. Et les valeurs positives, je les amène dans mon expérience, mais je les amène d'une certaine manière, c'est-à-dire je les amène comme un manque, comme quelque chose qui est extérieur à moi, dont j'ai besoin et que tôt ou tard je vais perdre. C'est pour ça que quand je fais ça, je crée ma mort en permanence. Je l'imagine en permanence. Donc je suis virtuellement mort. Voilà, tout ce que je viens de dire, j'ai envie de le laisser aller, de ne plus m'en occuper, de me laisser imprégner par le partage d'Avil, qui disait que dans sa vie, bien, tout est là, voilà, c'est tout. C'est là, c'est bien, c'est pas là, c'est bien, voilà. Et bien, c'est ça, ne plus donner de valeur positive ou négative. Et c'est fondamental. C'est la seule source de libération profonde. Libération à laquelle notre cœur nous appelle. Nous sommes libérés. Mais le cœur, lui, le sait. Mais notre mental ne le sait pas. Parce qu'on a joué à le jeu de la séparation. Donc évidemment, c'est bien fait. C'est aussi simple que ça. Vient tout de suite de parler de la passion, parce que ne plus donner de valeur aux choses ne veut pas dire ne pas avoir de passion dans l'instant pour quelque chose. Et ça, c'est justement ce qui va se produire. Il peut y avoir des moments où ça nous paraît un peu insipide, on est un peu vide, ou comme un peu sonné, ou abruti, ou... c'est des passages. Mais on va vers une joie, une passion, un émerveillement. Ce que j'appelle encore, comme je disais tout à l'heure, un état amoureux avec ce qui est là maintenant. Et on peut être amoureux de tout, d'une fleur, de la porte d'un placard, de n'importe quoi, d'une roue de voiture, de tout ce que vous voulez. Et vraiment, je ne plaisante pas, parce que l'amour n'a pas de limite. L'état amoureux, c'est un émerveillement, de voir une danse d'atomes, de particules, de cellules, cellules qui manifestent, qui s'assemblent pour former un corps, qui fonctionnent de manière incroyable. Une voiture automobile, n'importe quoi, ou une pierre, ou ce que vous voulez, une rivière qui coule, une marmotte dans un champ, ce que vous voulez. Un état amoureux de tout, un émerveillement d'enfant, alors que les choses n'ont plus de valeur. C'est-à-dire que l'enfant, lui, joue en permanence, comme s'il a à sa disposition des jeux à l'infini, et donc il ne saisit rien du tout. Un jeu n'a pas plus de valeur qu'un autre jeu, je veux dire. Donc il y a un émerveillement, et en même temps, les choses n'ont pas de valeur en elles-mêmes, ni positives, ni négatives. C'est pour ça que le Cours en Miracles nous dit, ta valeur est infinie, et la valeur de ton frère ou de ta sœur, elle est infinie. Et Dieu n'a pas changé son état d'esprit à ton égard, sa vision à ton égard. Dieu ne voit que perfection dans tous ses enfants, c'est-à-dire dans la manifestation lui-même. Tous, sans aucune exception. Et là, il y a joie, il y a gratitude. Donc, ne pas donner de valeur aux choses ne veut absolument pas dire ne pas être dans la joie et dans la gratitude.
je voudrais partager aussi cette attitude de rencontre, en fait, de cheminer, de vivre en laissant en rencontrant les événements, en allant en les accueillant. Ils sont pas provoqués, ils viennent à ma rencontre et je les accueille. Je fais ce qui est à faire dans cet instant-là. Et j'ai dû aller à l'hôpital voir une maman qui attend des jumeaux. Et ça se passe pas bien et elle criait à l'aide. Donc je suis venue et j'ai travaillé. J'ai essayé de lui faire un soin. Elle était très faible parce qu'elle avait perdu du sang, elle était pas bien. Et j'ai travaillé simplement l'accueillir, l'écouter, lui apporter ce qui me semblait lui convenir. Et puis je lui ai fait du shiatsu. Elle s'est détendue. Et à la fin de la séance, les bébés bougeaient. J'ai senti aussi qu'elle était aussi dans une joie. C'était la grande paix, tout en accueil en fait aussi, là. Une grande, très belle joie. Et je suis repartie. Ça s'est bien passé pendant quelques jours et puis de nouveau des problèmes, des soucis. Et je suis repassée et nous avons recommencé. On a fait un soin. Là aussi, les bébés ont manifesté. C'était extraordinaire. Voilà. C'était là l'accueil, la rencontre avec la vie. Ce quotidien qui n'est pas forcément facile, mais tout en émerveillement. Voilà. C'était vraiment cet accueil. Simplement l'accueil de tout ce qui se passe. Le contexte est très difficile parce que l'hôpital, c'est pas un milieu facile du tout. Et en même temps, peut-être qu'il fait encore mieux ressortir la beauté des choses, la beauté de la vie.
Voilà, je me sens fortement guidé à terminer ce groupe par 5 minutes d'écoute de ce mantra avec un petit peu plus de volume, dans lequel nous pouvons nous réunir par le cœur, dans lequel il n'y a plus de séparation entre toi qui écoutes cet enregistrement et nous qui sommes ici dans cette pièce. Et nous pouvons en profiter aussi pour élargir cette communion à l'ensemble du vivant. Ressentir qu'il n'y a pas de séparation entre tout ce qui est vivant dans la vie, dans toutes les formes d'existence, partout où qu'elles soient. Alors, et avec ces mots qui répètent tout le temps, paix, 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 une phrase m'est venue intérieurement, le temps de la paix est venu dans nos cœurs, sur la terre, le temps de la paix est venu. Voilà, sur ces paroles, je vais clore l'enregistrement. Et je me réjouis de vous rencontrer à nouveau dans un prochain partage.